le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. L'attentat du 16 octobre, lors duquel deux Suédois ont été tués, aurait-il pu être évité? Les organes de contrôle de la police et du renseignement ont remis leur rapport. Mais d'abord, les échanges universitaires Erasmus intéressent-ils toujours les étudiants? Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ils ont entre 18 et 30 ans, bientôt diplômés, ils s'apprêtent à faire leur entrée dans la vie active. Le Soir a voulu mettre un coup de projecteur sur les aspirations, les questionnements, les espoirs d'une génération. Comment envisage-t-il le travail, le logement? On va répondre à ces questions pendant cette semaine. Aujourd'hui, on vous parle de l'Erasmus. Les jeunes sont-ils encore nombreux à partir? Pourquoi veulent-ils vivre à l'étranger pendant plusieurs mois? Charline Halleux a posé ces questions et bien d'autres à des étudiants concernés. Ils nous partagent leur expérience.
Je m'appelle Augustin, je vais sur mes 27 ans et je suis parti en Finlande pendant un an.
Je m'appelle Manon, j'ai 23 ans. Je suis partie à Chicoutimi au Québec pendant 4 mois.
Je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et je suis partie en Espagne pendant 3 mois.
Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans et je suis aussi partie en Espagne et je suis partie 5 mois.
Moi je m'appelle Eva, j'ai 21 ans et je suis partie à Cuernavaca au Mexique pendant 5 mois.
L'Erasmus, c'est un programme qui permet aux jeunes de partir quelques mois pendant leurs études. Le goût de l'étranger, c'est ce qui a motivé ces étudiants.
Moi je suis partie pour sortir de ma zone de confort et pour rencontrer d'autres gens.
Moi c'était avant tout de pratiquer l'espagnol et de la améliorer. Donc je me suis dit, en allant en Espagne, je vais pouvoir pratiquer l'espagnol, mais aussi l'anglais, puisque je parlerai avec d'autres étudiants étrangers. Donc c'était surtout ça.
Moi, c'est plutôt dépaysement. C'était vraiment aller voir quelque chose qui ne ressemble absolument pas à son quotidien, une météo qui ne ressemble pas, une ville qui ne ressemble pas, des mœurs qui ne ressemblent pas. L'idée, c'était de ne pas rentrer comme on était parti.
Je te rejoins sur ça, parce que j'avais vraiment besoin de partir. J'étais vraiment un poids dans ma vie où il fallait que je parte. Donc je me suis dit, ok, ça tombe très bien. Et c'était mon attente principale, même avant les études, etc. C'était de partir, de rencontrer des gens, d'avoir un dépaysement, de découvrir autre chose, une autre culture, etc.
Oui, perso, c'est aussi pour l'expérience. Vu qu'on n'a que nos amis d'Erasmus et que c'est pareil pour tout le monde, bah, ça forme une petite famille et tout. Enfin, c'est quelque chose que je pense qu'on ne pourra pas vivre autre part que dans un Erasmus.
Je suis allée sans aucune attente. J'étais ok, je vais juste profiter. J'avais plus des attentes sur moi, mais pas sur l'expérience. Comme ça, bah, ouais, je ne pouvais pas être déçue.
Cette envie d'Erasmus, ils ne sont pas les seuls à la ressentir. Les mobilités internationales augmentent partout dans le monde. On compte une augmentation de 32% d'étudiants sur 5 ans. Pilar Jiménez-Alba travaille au bureau international d'une haute école à Bruxelles.
La tendance, elle est, je pense, identique chez tous nos partenaires et un peu partout dans le monde entier. Ça a toujours augmenté. Nous avons eu les années Covid qui ont été terribles. Donc, durant 2 ans, il y a eu un frein, une petite réticence à partir. Et je dirais que depuis 2 ans maintenant, ça explose. Pourquoi partir? Mais pour pas voir ce qu'il y a ici. Et en tous les cas, se donner un certain kick dans une vie qui a eu des années un peu monotones. Là, on est encore dans la génération des jeunes qui ont quand même vécu dans leur trip et dans leur souffrance interne ce confinement. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont peut-être, pour certains d'entre eux, pas beaucoup bougé.
Mais l'idée d'Erasmus, c'était pas là avant le Covid. Elle est venue au moment où j'ai décidé que j'allais faire telle ou telle étude, mais même sans savoir ce que j'allais faire, je savais que je voulais partir. J'ai l'impression qu'on a tellement été bloqués pendant une longue période qu'on avait encore plus cette envie d'aller voir autre part. Et quand j'en parle avec mes proches, parce que j'ai énormément d'amis qui sont partis les dernières années ou qui partent encore, bah, on a tous un peu les mêmes aspects. Il y a quelques années, moi, j'aurais pas eu l'idée de partir il y a 5 ans, par exemple.
Mais je pense que c'est la meilleure tranche d'âge que pour le faire. Avant, on n'est pas apte à partir, je pense, enfin, ne fût-ce que financièrement. Et après, l'air de rien, une fois qu'on sera dans la vie professionnelle, c'est beaucoup plus compliqué. Tandis que là, il y a l'université qui te propose de partir. On dit, bah, en plus, t'as la bourse. C'est le plus pratique si on veut découvrir le monde.
C'était encore à cet âge-là qu'on se cherchait encore un peu. Effectivement, l'Erasmus, on commence à à se faire un petit chemin en tant qu'adulte, mais on cherche encore pas mal. Et partir loin, rencontrer une autre culture et d'autres personnes, ça forge aussi.
Si l'idéal de l'étranger en fait rêver plus d'un, il y a bien sûr de nombreuses difficultés à tenter la vie dans un autre pays.
Bah, moi, je les vois plus maintenant, les difficultés, mais c'est vrai que si j'y réfléchis bien, les deux premières semaines, c'était plutôt des difficultés plus logistiques, je dirais, organisationnelles. Et puis, il y a le moment où la première fois que tu te sens un peu seule. Quoi. Ça, je pense que tout le monde y passe quand on est en Erasmus. Mais après, vu l'expérience, moi, ça a vite passé derrière moi. Et les moments où je me sentais pas bien, ils sont loin. Mais ça arrive et ça, il faut le savoir aussi avant de partir.
En plus de savoir s'acclimater à une nouvelle ville, il y avait la première semaine, en fait, je me demandais ce que je faisais de ma journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, etc. Donc, je me souviens que c'était une question à ce moment-là, mais que j'avais aussi bien profité pour me balader, pour aller voir plein de trucs, pour essayer de commencer à me repérer, à voir les choses que je voudrais voir plus tard.
Mis à part, du coup, cette barrière de la langue où il a fallu apprendre ne fût-ce que les bases, j'ai trouvé que l'anxiété, c'est quelque chose dont les gens parlaient pas du tout. Pourtant, l'anxiété, ça touche quand même beaucoup de gens. Personnellement, je pense que la première semaine ou les 10 premiers jours, j'étais très anxieuse. Et du coup, je me sentais un peu mal parce que tout le monde avait l'air de bien vivre la chose et tout. Et moi, au début, pas du tout. J'avais l'impression d'avoir un petit décalage comme ça avec les autres.
Oui, il y a des déceptions, ça, c'est évident. Tout le monde ne trouvera pas son bonheur. Et il faut essayer de faire comprendre à cette jeunesse que partir, ce n'est pas prendre sa maison et aller ailleurs. C'est vraiment partir tout nu et arriver quelque part dans un endroit où il faudra s'adapter à l'autre et accepter ce que l'autre est. Ça, c'est un peu plus compliqué. J'essaie de faire comprendre quand même qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir non plus. Il faut laisser les choses venir à soi. Mais pour certaines et certains, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a toujours des retours, quelquefois, ça reste malgré tout minime, mais des retours d'étudiants qui n'arrivent pas du tout à s'adapter et à vivre ce rêve qu'ils attendaient tant. Et donc, quelquefois, ils reviennent malheureusement.
Moi, j'ai eu du mal à dire à mes parents, ok, aujourd'hui ça va pas. Il y avait des jours où j'avais le smile et puis d'autres où ça allait pas et je me sentais coupable parce que je leur avais tellement parlé de cet Erasmus que je me disais, je peux pas aller mal, ou je me disais, mais tu vis un rêve que plein de personnes ont envie de vivre. Donc c'était tout le temps du je suis pas bien, mais je peux pas être pas bien. Oui, j'ai quand même ressenti cette petite culpabilité de me sentir parfois pas au top, quoi. Alors que, comme tu disais, avec l'anxiété, c'est tout à fait normal. Tout le monde s'adapte à son rythme aussi, je pense.
C'est la plupart des galères qu'on a eues en Erasmus, la plupart des temps faibles, au moment où on était triste et pas bien, en fait, quelques années après, on les oublie complètement. Il y a vraiment que les bons souvenirs qui restent. Même s'il y a des galères, il y en aura, ça c'est sûr. 2 ans après, c'est tout oublié. Il n'y a que le bon qui reste.
Je suis totalement d'accord, il y aura des galères. Et en effet, on les oubliera. Mais surtout, tout le monde est capable de les surmonter. Ouais. Parce que de loin, ça peut paraître compliqué et difficile. Certaines personnes peuvent se dire « Non, mais je ne serais pas capable de gérer ça. » Même s'il y a énormément de points positifs, ça a l'air vraiment très compliqué. Sincèrement, une fois qu'on est dedans, on est dedans et ça passe très bien finalement.
L'apprentissage d'une langue, l'ouverture d'esprit, un avantage sur le marché de l'emploi, l'Erasmus a de nombreux bénéfices pour les étudiants qui en font l'expérience.
Je redonnerais beaucoup pour avoir ce sentiment vraiment de peu de conséquences, faire ce que tu veux, un emploi du temps très allégé, des nouvelles connaissances limite toutes les 2 semaines. C'était un vrai sentiment de liberté, il n'y avait jamais rien de prévu, jamais rien de monotone. Donc ouais, c'est vraiment ça que je retire en premier, c'est juste un sentiment de liberté que je n'ai pas retrouvé après en fait.
Le fait de se trouver, tu te responsabilises de ouf. Parce que tu dois tout gérer, tes courses et tout. Je suis hyper contente d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées. On crée des liens qui sont hyper compliqués après à retranscrire, mais c'est fort.
Maintenant, avec le vrai recul, ce que j'en retire, c'est mon indépendance personnelle parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre à vivre seule et de me rendre compte que, maintenant j'ai 23 ans, je suis prête à quitter la maison.
On se cherche beaucoup à notre âge, etc. Et je trouve que, du coup, l'Erasmus, on apprend tellement de choses sur soi-même que si on était resté dans notre petit confort en Belgique, c'est un gain d'expérience énorme sur soi-même.
Je me rends compte de l'importance de la capacité à parler plusieurs langues, quoi. Mm. Si on ne pratique pas les langues, on les perd un peu. Mais il y a toujours ces bases-là qu'on peut réutiliser. Et je me rends compte que, grâce à cette expérience, j'ai augmenté et amélioré mes capacités. Et je pense que ça va me servir toute ma vie, quoi.
C'est vraiment quelque chose qui va d'abord vous ouvrir. Et aussi une force de pouvoir mettre cela en avant lorsqu'on cherchera un travail. Oui, c'est toujours un avantage d'être sorti de chez soi parce que ça montre qu'on a grandi. Et c'est important, il faut s'ouvrir au monde. Que ce soit au niveau des mobilités ou au niveau des stages, nous avons des étudiantes et des étudiants qui partent, qui reviennent à Bruxelles, mais qui vont repartir parce qu'ils savent que leur place n'est plus ici. J'ai tellement aimé que j'ai décidé de repartir. pourquoi pas, c'est parfait. Il faut le faire quand on est jeune.
Le 16 octobre dernier, deux supporters de foot suédois étaient tués dans le centre de Bruxelles par un homme, Abdesalem Lassoued. L'auteur, affilié à l'État islamique, est décédé peu après son arrestation. Le comité P et le comité R, les organes de contrôle de la police et du renseignement, ont clôturé leurs enquêtes relatives à cet attentat et les rapports dévoilent des lacunes de la part des autorités. Que contiennent ces rapports? Des erreurs ont-elles été commises? L'attentat aurait-il pu être évité? Camille Thorlinden a posé ces questions à Guillaume Derclet, journaliste au Pôle Enquête.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Camille.
Pouvez-vous me rappeler ce qui s'est passé le lundi 16 octobre 2023?
Alors le 16 octobre 2023, aux alentours de 19h, 19h15, des coups de feu éclatent à Bruxelles. Ils sont tirés par un homme qui s'appelle Abdesalem Lassoued. Il fera deux morts et un blessé grave parmi des supporters suédois venus regarder un match entre la Belgique et la Suède. L'attaque sera qualifiée d'attentat terroriste par la suite, assez vite en fait. L'auteur a d'ailleurs revendiqué très vite l'attentat et son appartenance à l'État islamique sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, il a été retrouvé par les forces de police et a été tué sur place.
Trois enquêtes réalisées par les organes de contrôle des services de police et de renseignement ont mis en lumière des failles de la part des autorités concernant le cas d'Abdesalem Lassoued. À la suite de quel événement cette investigation a-t-elle été commanditée?
Alors cette investigation, donc ces enquêtes, elles ont été commanditées par le gouvernement à la suite de l'attentat en fait. Donc très vite, je pense que c'est le 20 octobre, ces enquêtes sont demandées par le gouvernement. La présidente de la Chambre, Eliane Thieu, envoie également au comité P et au comité R, qui sont donc les organes de contrôle des services de police et des services de renseignement, ces demandes d'enquête.
Le rapport du comité P a donc été publié et retrace 9 moments critiques précédant l'attentat. Que dévoile-t-il exactement? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns?
Il retrace plusieurs moments du parcours d'Abdesalem Lassoued, qui est un parcours, comme on le sait aujourd'hui, qui a connu certaines zones d'ombre. Cet homme fait l'objet d'une demande d'information des services italiens en 2016, notamment, parce qu'il est suspecté d'être radicalisé et de vouloir partir faire le djihad. Il y a une procédure d'asile en 2019, il y a aussi un mariage, mais le plus interpellant en fait dans les conclusions du comité P et du comité R, c'est que l'orthographe d'Abdesalem, donc du prénom et du nom d'Abdesalem Lassoued, a posé problème à divers moments. Il y a au moins 4 orthographes différentes et ces orthographes n'ont pas permis de retrouver la trace de ce personnage à chaque fois dans les bases de données policières ou les autres bases de données, parce que les recherches phonétiques par exemple sont pas possibles et une simple lettre peut changer le résultat obtenu par les policiers. Et donc le député Georges Dallemagne, qui est un député engagé, qui fait partie de la commission de suivi du comité P et du comité R, trouve que c'est hallucinant de se rendre compte qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a appris des attentats de 2016, que des problèmes d'orthographe posent à tel point problème que des informations ne puissent pas être croisé, que nos bases de données policières ne soient pas à jour, soient archaïques, ce sont ces mots. Et ils se demandent aussi pourquoi on n'a pas appliqué l'ordre de quitter le territoire qui s'appliquait à cet individu.
L'attentat aurait-il pu être évité si ces écarts n'avaient pas eu lieu?
Alors ça non, donc le comité P le dit bien, son but c'est pas de dire qu'avec des si on aurait pu éviter l'attentat. Il dit simplement que l'attentat n'aurait pas pu être évité si ces erreurs n'avaient pas été commises. La seule chose qui aurait pu éviter l'attentat, c'est appliquer l'ordre de quitter le territoire qui a été délivré à Abdesalem Lassoued et qui était d'ailleurs réclamé par la Tunisie. La seule chose qui aurait pu éviter l'attentat, c'est en fait son départ du territoire belge. Mais le but de ces enquêtes n'était pas de refaire l'histoire.
L'enquête a notamment dévoilé le manque de personnel important au sein de la cellule radicalisme, alors que la charge de travail ne cesse de croître. La situation est-elle vraiment préoccupante ?
Donc l'enquête, elle pointe notamment un manque de personnel dans la cellule radicalisme de la zone de police de Bruxelles-Nord, qui reçoit des informations sur Abdesalem Lassoued, notamment le fait qu'il tient un discours très radical aux abords de mosquées. Il y a un enquêteur qui assume à lui seul le suivi de la quasi-totalité des missions qui sont dévolues à cette cellule radicalisme. Cet enquêteur va faire un burn-out, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment d'actes d'enquête qui sont sont effectuées autour du cas d'Abdesalem Lassoued. Le rapport pointe un manque d'encadrement, de suivi, un manque d'effectifs, une surcharge de travail. Il estime que la situation est particulièrement préoccupante, mais ce n'est pas le seul service qui est visé. D'autres services de la police, notamment de la police fédérale, de la direction de la DGSOC, sont visés.
Le comité R et le comité P ont formulé une dizaine de recommandations à l'égard des services belges. Pouvez-vous m'en énoncer ?
Ils recommandent notamment d'améliorer les bases de données belges, notamment pour la police fédérale de se doter d'un outil de gestion performant. Et de manière plus large, l'organe souhaite qu'une réflexion se mette en place sur un outil d'échange d'informations performant pour les différents services. Le comité P et R souligne qu'il faut un meilleur échange d'informations. C'est quelque chose qui avait déjà été pointé du doigt lors des attentats de 2016 et qui a été amélioré depuis, mais il reste du travail à ce niveau-là. Note qu'il faut un meilleur échange d'informations entre la sûreté de l'État, le renseignement militaire, l'OCAM, l'Office des étrangers, la police. Et puis, dernière chose, donc dans les trois qu'on a décidé de mettre en avant, c'est de se pencher sur le manque de personnel et le manque de moyens humains, notamment dans la zone de Bruxelles-Nord ou à la police fédérale.
Merci Guillaume.
Merci Camille.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.